êtes sur Radio Mé, la radio des bonnes ondes, dans l'émission Musique au pluriel, animée par Bruno Point et Paul Turchet. Après avoir consacré notre précédente émission à André Messager, nous revenons un peu à la Belle Époque pour consacrer à un musicien magnifique, Reynaldo Hahn, dont on a dit qu'il était le musicien de la Belle Époque, qui, comme André Messager, a écrit beaucoup d'opérettes et beaucoup d'autres œuvres, puisqu'il laisse 150 œuvres musicales. Dans ses opérettes, comme pour André Messager, il n'y a pas de coup de poignard, il n'y a pas de coup de fusil, il y a de la délicatesse, de l'humour, beaucoup d'humour, de l'amour, et sur le plan musical, pour ceux qui nous intéressent, une invention mélodique remarquable et un raffinement harmonique tout aussi remarquable qui caractérise l'œuvre de Reynaldo Hahn. Nous allons écouter un premier extrait d'une œuvre, d'une série d'œuvres pour piano et chant qui témoigne de son raffinement musical et intellectuel, une œuvre qu'il compose à 18 ans. Un extrait qui s'appelle L'heure exquise, d'après un poème de Verlaine, bien sûr, d'après le poème de Verlaine, avec une musique aussi exquise que l'œuvre éponyme qu'elle définit.
Paul nous l'a dit, Reynaldo Hahn est surtout connu pour ses opérettes ainsi que ses mélodies, et notamment Ciboulette, dont nous parlerons plus tard dans cette émission. Mais il a commencé en étudiant la musique et en composant des œuvres pour tout à fait d'autres domaines, en musique de chambre, en musique de piano beaucoup. Et puis, il a écrit aussi un concerto pour piano et un concerto pour violon. En fait, dès le début, il a été primé pour une œuvre symphonique. Et puis, ensuite, son goût naturel pour le chant dont il usait beaucoup dans les salons, nous y viendrons aussi, en jouant lui-même du piano et en s'accompagnant, l'a porté vers le genre vocal, que ce soit les mélodies ou l'opéra. Mais découvrons pour l'instant, dès à présent, un extrait de son concerto pour piano, très beau concerto, qui illustre ses qualités musicales, ses qualités harmoniques, sa délicatesse et sa connaissance intime de l'instrument.
Reynaldohan naît d'une mère vénézuélienne, pardon, d'origine basque et hollandaise, et d'un père allemand venu de Hambourg. Ce père a des entreprises, il fait des affaires, il voyage beaucoup, Bordeaux, Saint-Nazaire, dans toute la France et même l'Europe. Et Reynaldohan, qui est le benjamin d'une fratrie de 13 enfants, naît le 9 août 1874 et il ne va quasiment connaître que Paris, où à l'âge de 3 ans, il va venir s'installer et où il y restera jusqu'à sa mort, donc avec toute sa famille. Le jeune Reynaldo montre des dispositions, on suppose, évidentes pour la musique, puisqu'il va rentrer au Conservatoire de Paris en 1885, donc il a un peu plus de 10 ans, et il va devenir l'élève dans sa formation d'Albert Lavignac et d'un auteur que nous aimons, qui est un peu l'un de nos chouchous, qui est Jules Massenet, qui va devenir son maître de composition. Et le jeune Reynaldo va écrire très très vite de très belles mélodies sur des poèmes de Victor Hugo. Il va faire une musique de scène d'après Alphonse Daudet et il va côtoyer pour la première fois les salons dont Bruno parlera davantage, où il va se faire connaître, notamment en jouant du piano et en chantant en même temps. Parmi ses très nombreuses œuvres, on trouve un quintet pour piano, on trouve donc un concerto pour piano que Bruno a annoncé et nous a fait écouter, et puis on trouve aussi un très beau et très poétique concerto pour violon. Nous allons donc écouter un extrait du deuxième mouvement, du mouvement lent, qui s'appelle Chant d'amour, et vous allez apprécier la grâce, la délicatesse du style de Reynaldohan.
Reynaldohan, homme très élégant, très cultivé, a beaucoup fréquenté en son temps les salons. Reynaldohan est né dans le dernier quart du 19e siècle et a vécu dans la première moitié du 20e. Et dans les années 1910 jusqu'à la guerre, jusqu'en 1940, eh bien les salons étaient des lieux très importants. Et Reynaldohan fréquentait notamment le salon de Madeleine Lemaire, chez qui il a rencontré Marcel Proust. Ces salons réunissaient à la fois, bien sûr, des gens du monde, des gens fortunés, mais aussi les artistes, qu'ils soient de peintres, qu'ils soient musiciens, qu'ils soient poètes. Tous fréquentaient les artistes et évidemment les personnes qui organisaient ces salons cherchaient à créer l'événement et à regrouper les personnes soit à la mode, soit les personnes en vogue au niveau artistique. Souvenons-nous dans l'émission sur Horowitz qui rencontre ni plus ni moins que Ravel, puis Poulenc dans les salons à Paris. Donc c'était des lieux qui étaient d'une grande importance. Dans ces salons, justement, Reynaldohan, qui savait tout faire en musique, eh bien chantait lui-même en s'accompagnant lui-même au piano. Et nous allons l'écouter lui-même, puisque nous avons des enregistrements, dans un air de Gounod où il déploie toute sa grâce. Certes, ce n'est peut-être pas une grande voix, mais il sait chanter musicalement et il sait exprimer la poésie de l'œuvre. Écoutons-le donc dans Gounod.
Au fleuve le ruisseau se mêle, et le fleuve à la mer, au vent la brise unit son aile et se confond dans l'air. Femme, c'est la loi suprême, ange, c'est la douce loi, tout veut s'unir à ceux qu'il aime, m'aimes-tu, dis-moi. Vois s'unir les flots heureux, vois se pencher sur ces abîmes ces lières amoureux. Le soleil étreint la terre, l'oiseau chante et pleure, hélas. Pourquoi ce divin mystère si tu n'aimes pas? Ces rayons de flamme et ces flots et ces zéphyrs, mon âme cherche dans ton âme l'écho de ces soupirs. Comme ces oiseaux fidèles dans le nid de leurs amours blottis et ployant de l'aile, aimons-nous toujours,
C'est dans un salon parisien que Reynaldohan va rencontrer le grand écrivain Marcel Proust. Marcel Proust, dont il deviendra l'amant, ils auront une relation amoureuse assez courte, de 94 à 96, mais ils resteront amis toute leur vie. Et en 1903, Proust, qui parle de Reynaldohan, écrit la chose suivante: cet instrument de musique de génie qui s'appelle Reynaldohan étreint tous les cœurs, mouille tous les yeux dans le frisson d'admiration qu'il propage au loin et qui nous fait trembler, nous courbe tous l'un après l'autre dans une silencieuse et solennelle ondulation des blés sous le vent. C'est bien écrit. Et nous allons écouter maintenant un extrait de l'opérette qui est donnée aux Bouffes parisiennes en 1933, donc qui s'appelle « Ô mon bel inconnu ». C'est un petit opéra, en fait, opérette en trois actes, mais qui est assez court et très concis, très condensé, qui dure 1 heure environ. Et c'est d'après un livret de Sacha Guitry. Sacha Guitry que nous retrouvons après l'avoir évoqué également dans ses collaborations avec André Messager. C'est plein de grâce, de quiproquos. C'est une famille de chapeliers. Le père, son épouse et sa fille qui s'ennuient, qui se disputent. Le père a l'idée de lancer une lettre dans laquelle il recherche son âme sœur. Il reçoit beaucoup de réponses et dans les réponses qu'il reçoit, il reconnaît, et c'est là tout le piment de la plume de Sacha Guitry, il reconnaît l'écriture de sa femme et de sa fille. Je vous laisse écouter cet extrait et puis imaginez la suite de cette histoire tout à fait piquante et amusante. Autre œuvre très connu de Reynaldo Hahn, son opérette, sa comédie musicale, on peut employer plusieurs noms, c'est sûr, qui s'appelle L'île du rêve. L'île du rêve, qui est une œuvre délicieuse, qui va être créée d'ailleurs par Messager. Lorsque cette œuvre est achevée, Reynaldo Hahn a 20 ans. C'est dire sa maturité musicale, l'excellence de sa formation et la grandeur, bien sûr, de ses dons. C'est charmant, cela se passe à Bora Bora, c'est l'histoire d'amour du lieutenant de Kerven qui a brisé le cœur d'une jeune Tahitienne et qui rentre en métropole et alors qu'il est prêt à l'emmener avec lui, cela ne se fera pas. Et donc, il va rentrer tout seul. C'est une œuvre donc délicate. Et vous allez écouter un extrait de cette œuvre qui s'appelle, on ne peut pas l'inventer, « Au pays de Bora Bora ».
Après cette belle île du rêve, à Tahiti, où d'ailleurs a été remontée il y a une dizaine d'années cette opérette, et qui a été d'ailleurs montée sur les lieux même, sur la plage, qui est le lieu où se déroule l'action, Venons-en à toute cette partie de l'œuvre pour lesquelles Reynald Owen est le plus connu. Nous allons évidemment parler de Ciboulette, mais nous commencerons par une œuvre peu connue qui mériterait d'être montée à nouveau. Il y en a d'autres d'ailleurs qui sont dans ce cas-là. Mais l'Opéra Comique à Paris entend, depuis le règne de Guillaume Deschamps, remonter des œuvres qui n'ont plus été jouées depuis longtemps. Et là, nous allons écouter Melvina par un chanteur merveilleux, Roger Bourdin, qui illustre bien la manière de chanter de cette époque. Alors bien sûr, aujourd'hui, on trouve que ça date un peu, que ça fait un peu suranné, mais il faut écouter la diction absolument impeccable, la mélodie tout à fait soyeuse et de cet artiste, comme d'autres, je pense pour les grands opéras, Georges Till par exemple, qui mériterait une émission. Roger Bourdin, nous allons le côtoyer dans cette œuvre pour ensuite parler de lui lors de Ciboulette, car il a joué aussi Ciboulette avec sa femme Géroï Bouet, et tous les deux d'ailleurs ont eu comme descendance notamment la grande écrivain Bourdin, ni plus ni moins. Donc on voit qu'on est dans un milieu artistique, on est dans un milieu d'élégance, on est dans un milieu de grande culture. Écoutons Roger Bourdin dans Melvina.
Étrange que tout mon cœur à vous, cher ange, se donna. Comme je passais dans la rue, soudain vous m'êtes apparu, Melvina. Vous oniez de la mousseline avec une grâce divine, Melvina. Et cette vulgaire boutique d'une vie rayonna. Devant cette image parfaite, mon admiration muette s'inclina. Oh, la merveilleuse surprise, cheveux d'or et mère marquise, Melvina. Me vint une folle idée, par vous, mon âme obsédée, Melvina, sous un maintien fier et modeste, une créature céleste, Melvina, alors entrez chez votre père, modeste employé. Et qui n'a que ce moyen problématique de vous être un peu sympathique.
Venons-en maintenant à Ciboulette. Ciboulette est ni plus ni moins, avec Véronique de Messager, l'opérette la plus jouée au monde. Or, sa genèse est intéressante. C'est une œuvre sur commande, car elle a été demandée à Reynald Owen parce que, en ce temps-là, dans les années 20, l'opérette tombait en déclin. Elle perdait pied face notamment au jazz et aux comédies musicales américaines, que Paul et moi nous adorons aussi. D'ailleurs, nous avons fait une émission et nous avons parlé des grands compositeurs, en l'occurrence de Gershwin, à cette époque. Mais donc, on se trouve dans les années 20 avec ces comédies musicales qui arrivent et qui prennent la place du chœur, dans le chœur du public. Et donc on demande à Reynald Owen d'écrire une opérette. Quelque part, il est un petit peu déçu, ça n'est pas le terme, mais il aurait préféré qu'on le louange pour d'autres œuvres, je dirais, plus classiques, telles que le concerto pour piano, le concerto pour violon, la musique de chambre, plutôt que l'opérette. C'est là où on voit d'ailleurs que les œuvres des compositeurs leur échappent pour l'avenir qui est tracé devant elles, puisque des dizaines d'années, voire un siècle plus tard, eh bien, le public, les auditeurs ont fait le tri et ont gardé certaines œuvres que peut-être le compositeur n'aurait pas mises en avant en premier, en tout cas était attaché à d'autres. Eh bien non, Reynald Dohan, avec ses mélodies et ses opérettes, c'est ça qui a traversé les décennies. Donc, Ciboulette, c'est une œuvre sur commande. Que se passe-t-il dans Ciboulette? Eh bien, le livret est assez simple et parfaitement un livret d'opéra. C'est une jeune maraîchère, Ciboulette, qui se fait prédire par une voyante un magnifique mariage, mais la prédiction ne peut se réaliser dans des circonstances que parfaitement farfelues. Elle rencontre un jeune homme, Antonin de Mourmelin, et qui va d'ailleurs la quitter pour une ancienne maîtresse, mais finalement, bien sûr, elle deviendra une chanteuse vedette sous le nom de Conchita Ciboulero et elle finira par épouser Antonin de Mourmelon. Donc on voit, on est dans la légèreté. Légèreté qui est d'ailleurs traduite par une très très grande chanteuse que nous écouterons, Géraud Iboué, par ailleurs l'épouse de Roger Bourdin, dont nous avons parlé dans l'extrait précédent. Géraud Iboué disait qu'elle qui chantait l'opéra, eh bien elle avait adoré chanter Ciboulette parce que c'était drôle, léger, évidemment magnifiquement écrit, et parce qu'elle connaissait très bien Reynald Dohan, qui l'avait produit dans de nombreux opéras en tant que chef d'orchestre, et qui d'ailleurs avait aussi tenu la baguette en son temps pour Ciboulette, lors de la création dans les années 20. Géraud Iboué disait que finalement c'est la seule œuvre dans laquelle elle a joué où elle ne mourrait pas à la fin, et quelque part ça la reposait et ça lui permettait de se détendre. Écoutons un premier air, en l'occurrence Moi je m'appelle Ciboulette, chanté par Julie Fuchs dans une nouvelle création qui a été produite à Paris sous la direction de Laurence Équilbey. Laurence Équilbey, grande chef d'orchestre associée plutôt au baroque, plutôt à la chorale, puisqu'elle a elle-même son propre groupe Accentus. Elle a maintenant un orchestre qu'elle dirige et qui s'est permis d'aller, à la demande de Guillaume Deschamps de Paris, d'aller jouer cet orchestre de Ciboulette et avec Michel Faux qui lui faisait la mise en scène. Donc écoutons Julie Fuchs.
Folie de s'appeler Julie. Il y a des femmes qui sont assez prudes pour s'appeler Gertrude. Certaines femmes sont assez profites pour s'appeler Camille. Il y en a d'autres qui se croient assez grandes pour s'appeler Yolande. Je m'appelle Ciboulette, ça sonne bien comme une chanson. C'est gai, c'est vif, ça pirouette. C'est un nom qui
Venant d'écouter Jules Fuchs donc à l'Opéra Comique en 2013, et revenons dans le passé parce que écoutez d'ailleurs sur YouTube une merveilleuse émission par Benoît Dutertre qui convie Michel Faux et Laurence Equilbet à parler de Ciboulette, et à cette occasion Jéroï Boué, la chanteuse, dit que beaucoup de grands chanteurs ont chanté Ciboulette, parce qu'il ne faut pas croire que parce que c'est de l'opéra, c'est facile, pas du tout. En l'occurrence, c'est très difficile à chanter, et donc cette œuvre a intéressé de très grands chanteurs. Notamment, nous allons écouter maintenant l'air le plus fameux, Nous avons fait un beau voyage, chanté par Maddy Mesplet, et Maddy Mesplet dans cette production était accompagné par José Van Damme, Nicolas Guéda, donc deux très grands chanteurs d'opéra, ainsi que Colette Alliot-Dugas et François Leroux, que nous avons bien connus il y a une vingtaine d'années ou une trentaine d'années, car ils ont fait leur début de carrière à l'Opéra de Lyon. Donc écoutons maintenant Maddy Mesplet et l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, dirigé par Cyril Diederich.
Nous avons fait un beau voyage.
Nous avons fait un beau voyage.
Nous arrêtons à tous les pas.
Nous arrêtons à tous les pas.
Buvons du cidre à chaque village.
Buvons du cidre à chaque village.
Cueillons dans les clos des lilas. Et la paix prolifique
des chapeaux, vieux garçons.
Nous avons rencontré des oies très distinguées,
des poules intriguées et des cœurs de pinceaux.
Nous avons rencontré monsieur le maire et le curé,
la mercière et son frère, leur sœur et sa soeur.
Nous avons fait un beau voyage.
Nous avons fait un beau voyage.
C'est le premier jour du printemps. Les oiseaux se mettent en
Nous avons fait des découvertes.
Nous avons fait des découvertes.
Tous les ruisseaux ont rajeuni.
Tous les ruisseaux ont rajeuni.
Les bois ont mis leurs robes vertes.
Les bois ont mis leurs robes vertes.
Et l'on dit que ce n'est pas fini.
Et l'on dit que ce n'est pas fini. Nous avons rencontré des abeilles en fièvre.
Des cigales espirées.
Des lézards touchés tôt.
Nous avons rencontré des vaches en robe de bure,
des chèvres en fourrure, des moutons en manteau.
Nous avons rencontré le sacristain et son chien,
la parole et sa bonne, le bedeau et son veau.
Nous avons fait des découvertes.
Nous avons fait des découvertes.
On refuse du monde dans les nids. Les seules roses, c'est offerte. Avec papillon réuni,
nous avons fait un beau voyage.
Nous avons fait un beau voyage.
C'est le premier jour du printemps.
C'est le premier jour du printemps.
Les oiseaux se mettent en ménage.
Les oiseaux se mettent en ménage.
Tout le monde voudrait en faire autant.
Terminons avec un dernier air de Ciboulette, C'est pas Paris, c'est sa banlieue, chanté par Jéroï Boué, présente dans l'émission de Benoît Dutertre que je vous invite à écouter sur YouTube. Et où là, on voit que l'opérette, si elle est réussie, si on constate qu'elle passe les années, les dizaines d'années, eh bien parce que c'est un pot-pourri de sa génération, c'est comme des photographies, comme un album qu'on feuillette. je ferai une comparaison un peu hardie, mais Starmania, on voit les banlieues, on voit les voyous qui viennent en ville, on a une photo de l'époque, et bien là c'est pareil, on a C'est pas Paris, c'est sa banlieue, chanté avec grâce et écoutant Jéroï Boué dans cet air.
Il y a des arbres, des maisons, il y a l'église et la mairie. Il y a des filles, des garçons, il y a tout ce qu'il faut pour qu'on se marie. On y jargonne au campatois, la grande ville est à quelques lieues. Mi parisien, mi villageois, c'est pas Paris, c'est sa banlieue. Quand on s'aime, c'est pour toujours, la campagne c'est plein d'innocence, mais parfois ça ne dure pas 8 jours, la grande ville c'est plein d'inconstance. Alors ça fait un compromis, on cultive la petite fleur bleue.
Revenons à la biographie de Reynaldo Hahn. Après la mort de son père en 1897, il va beaucoup voyager à Hambourg, Bucarest, Rome, Londres, et développer sa culture, notamment en littérature et en peinture. C'est une période où il compose énormément. Il compose un poème symphonique, il compose L'île du rêve, que nous avons entendu un extrait. Il publie des chansons espagnoles, des mélodies pour piano, des ballets. Voilà. Et lorsque la Première Guerre mondiale arrive, il a été entre-temps naturalisé français, eh bien il est incorporé dans un régiment d'infanterie. Et il combat. Et recevra au titre de ses services une citation élogieuse qui mérite d'être soulignée, car elle est liée à ce qu'on qualifie son insouciance du danger et son entrain. Voilà, comme si on peut avoir beaucoup d'entrain dans les tranchées de 14-18. Mais c'est le tempérament léger, virevoltant, aérien de Reynaldo Hahn. Il va ensuite s'engager beaucoup pour promouvoir la musique française. Il va être pressenti pour la Légion d'honneur, sera victime d'une cabale liée à une lettre anonyme dans laquelle on dénonce ses mœurs homosexuelles, et il sera défendu par des compositeurs et des auteurs que nous aimons, Théodore Dubois, Edmond Rostand et surtout le compositeur Gabriel Fauré, qui vont intervenir auprès de l'administration pour faire cesser cela, et il sera promu officier de la Légion d'honneur. Dans l'entre-deux-guerres, il va être professeur de chant à l'École normale de musique, et il va énormément produire et rencontrer, bien sûr, des artistes et des enseignants prestigieux. Alfred Cortot, Pablo Casals, le violoncelliste, Jacques Thibault, le violoniste, Nadia Boulanger, la plus grande pédagogue du XXe siècle. Dans cette époque, il compose « Ô mon bel inconnu », il compose des opérettes, « Ciboulette », tout cela, nous avons entendu des extraits, mais il compose aussi un quintet avec piano, un concerto pour piano, son concerto pour violon, autant d'extraits que nous avons écoutés, et doit quitter Paris pendant la Deuxième Guerre mondiale en raison de ses origines juives, de par son père qui est donc juif allemand. Et il va revenir comme membre de l'Académie des Beaux-Arts après s'être un peu exilé à Cannes et à Monte-Carlo, et bénéficiera de toute la consécration, évidemment, qu'il mérite. Il va décéder en janvier 1947 d'une tumeur au cerveau, et l'on peut se recueillir sur sa tombe, bien sûr, du Père Lachaise. Nous allons écouter maintenant une œuvre pour piano qu'il a composée dans une œuvre où il fait une série de portraits musicaux de peintres. Et donc ce que nous écoutons, c'est le portrait musical au piano du peintre Van Dyck.
Nous avons écouté lors de cette émission Anne-Sophie von Otter dans l'heure exquise extraite des chansons grises, et on voit avec elle que, comme je le disais, les grandes chanteuses, les grands chanteurs chantent Reinaldo Hahn, puis Magda Tagliaferro avec un orchestre dirigé par Reinaldo Hahn lui-même dans un extrait du premier mouvement du concerto, puis pour piano, puis le concerto pour violon, le deuxième mouvement dit « Chant d'amour » par Denis Clavier et l'Orchestre National de Lorraine. Ensuite, Reinaldo Hahn lui-même s'accompagnant au piano dans « Aimons-nous toujours » de Charles Gounod. Puis une très grande chanteuse encore, Suzanne Graham, dans « Ô mon bel inconnu » avec l'Orchestre symphonique de Birmingham. Ensuite, « L'île du rêve, pays de Bora Bora » par l'orchestre Rundfunk Orchestra dirigé par Hervé Niquet, puis Roger Bourdin dans Melvina, merveilleuse voix Roger Bourdin, ensuite Julie Fuchs avec l'orchestre dirigé par Laurence Equilbet dans Moi je m'appelle Ciboulette, puis toujours sur Ciboulette Nous avons fait un beau voyage par Maddy Mesplé et José Van Damme, et enfin Jérôme Ibouet avec l'orchestre Radio Lyrique dans C'est pas Paris, c'est sa banlieue, pour terminer par une œuvre pour piano, portrait du peintre Van Dyck, en lien d'ailleurs avec la personnalité de Proust, puisque Reynald Dohan et Proust se sont liés d'amitié toute leur vie. Notre prochaine émission sera consacrée à un artiste presque local, puisqu'il est de l'Isère, la Côte-Saint-André, Hector Berlioz. À bientôt donc.